Radio Okapi. Jeune.
La jeunesse congolaise ne veut plus être simple spectatrice des crises que traverse la République démocratique du Congo. Elle veut désormais faire entendre sa voix et proposer des solutions concrètes pour la paix et le relèvement post-conflit. Après un sommet diplomatique organisé en novembre 2025 en collaboration avec la section genre de la MONUSCO, des jeunes réunis au sein des lignes de l'émergence Icebel ont élaboré un document stratégique. Un plaidoyer commun adressé au gouvernement congolais, à l'Union africaine, à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ainsi qu'à la MONUSCO. Objectif, contribuer activement à la consolidation de la paix et au relèvement des zones affectées par les conflits. Dans ce numéro des 100% jeunes, nous recevons les initiateurs de cette démarche citoyenne. Évariste Kimba, président de la structure, Hélène Okako, secrétaire générale adjointe chargée de l'administration et Nathan Mouskabo, chargé des programmes et partenariats. Avec eux, nous allons décrypter les enjeux de ces plaidoyers, comprendre les attentes de la jeunesse et explorer les pistes de solutions pour une paix durable en RDC. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois et à la présentation, Grâce Amzati. Bonjour et bienvenue à tous dans ce magazine 100% jeune. La jeunesse congolaise s'organise et s'engage pour la paix. À travers un plaidoyer commun, elle veut peser dans les décisions et contribuer au relèvement post-conflit en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons dans ces studios des jeunes leaders des lignes de l'émergence Icebel.
L'invité.
Évariste Kimba, bonjour.
Bonjour, merci les journalistes.
Et bienvenue dans votre émission des jeunes, 100% jeunes sur Radio Okapi.
Merci.
Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre comme objectif poursuivi par la ligne de l'émergence, Icebel, en mettant en place cette note que vous appelez note de plaidoyer commun de la jeunesse pour la paix et le relèvement post-conflit en RDC?
Merci infiniment, monsieur le journaliste, pour cette question pertinente. Notre association, ligne de l'émergence, est une association de jeunes qui travaille depuis quelques années pour apporter la contribution des jeunes au développement socio-économique de notre pays. C'est ainsi que l'impératif de paix, l'une de l'émergence a pris l'initiative. En novembre, en collaboration avec la MONUSCO, a fait d'apporter la contribution des jeunes aux efforts actuels de la paix. C'est ainsi, ici, de ce sommet diplomatique, nous avons mis en place quelques résolutions. Aujourd'hui, qui portera la voix de la jeunesse congolaise à ces processus de paix. Dans ces sommets diplomatiques, nous étions avec les jeunes de Kinshasa, des provinces, voire même ceux qui vivent la guerre. Et nous avons mis en place une note de plaidoyer portant les contributions relatives aux efforts actuels de paix, mais également au relèvement post-conflit. Cette initiative, elle est purement patriotique et nous ne voulons pas que les jeunes soient seulement observateurs, mais qu'ils soient aussi acteurs de la paix.
Les plaidoyers ou la note de plaidoyer, vous l'adressez à qui?
En effet, notre plaidoyer s'adresse aux Nations Unies, s'adresse à l'Union africaine, s'adresse au gouvernement congolais ainsi qu'à la CIRAGEL.
Vous avez tout à l'heure parlé du sommet diplomatique que vous avez organisé au mois de novembre en collaboration avec la MONUSCO. En guise de rappel, quelles étaient les différentes résolutions à l'issue de ces sommets diplomatiques qui vous ont justement conduit aujourd'hui à mettre en place cette note de plaidoyer que vous adressez aux représentations diplomatiques?
Dans le cadre de notre sommet diplomatique tenu en novembre dernier, en collaboration avec la MONUSCO, nous avons mis en place quelques résolutions, un bon nombre de résolutions, dont je peux illustrer quelques-unes. Notamment, nous sommes en train de plaider pour la mise en place des mécanismes nationaux de vulgarisation des accords de paix en quatre langues nationales. Parce que nous avons estimé que depuis l'accord de Lusaka, jusqu'à présent, la République démocratique du Congo, notre pays, a signé beaucoup d'accords qui engagent notre République, mais malheureusement que la population, en grande partie, ignore. C'est ainsi, on s'est dit que la population congolaise n'est pas seulement Kinshasa. La population congolaise, c'est les 26 provinces, voire même ailleurs. C'est-à-dire que les accords de paix qui sont en train d'être signés engagent non seulement le présent, mais aussi le futur. Et donc, la jeunesse congolaise, la population congolaise, se trouve à Kinshasa, au Maniema, au Kasaï, partout ailleurs, a non seulement les droits, mais aussi les devoirs de connaître ces accords afin de préparer l'avenir de notre nation. Pour que la paix ne soit pas seulement utile pour aujourd'hui, mais également pour les générations futures.
Comment pensez-vous que les jeunes de la RDC doivent s'impliquer ou doivent faire pour s'impliquer aux efforts de la paix? Parce que vous, c'est vrai, vous avez vos initiatives que vous mettez en place pour vous montrer que vous contribuez dans les processus de paix. Et les autres jeunes qui ne sont pas dans des structures comme vous, comment ils doivent faire pour aussi contribuer à mettre la main à la pâte?
Déjà, pour contribuer aux efforts de la paix, c'est une question d'attitude. Et l'attitude que nous devons prendre aujourd'hui, c'est celui de la cohésion nationale. On peut contribuer aux efforts de la paix d'une manière directe et indirecte, notamment en refusant les discours de la haine, notamment en refusant des propos injurieux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la paix sans la cohésion nationale. Et vous allez voir que c'est nous les jeunes qui sommes à la fois acteurs, mais également victimes. Mais si aujourd'hui nous faisons la promotion des paix, en prêchant la cohésion nationale, en évitant les thèmes par exemple « Yo Muswahili, Yo Muluba, Yo Muyaka » et dire que nous voilà, nous sommes tous Congolais. C'est une bonne manière de participer aux efforts des paix. Nonobstant cela, ils peuvent rejoindre notre dynamique, notre association d'émergence, à travers les différentes provinces où nous sommes institués, voire même sur les réseaux. Mais nous avons le secrétariat technique de la résolution 2050, qui est en place également dans les différentes provinces. Nous avons les conseils nationaux de la jeunesse et les parlements de jeunes. Ils peuvent rejoindre ces institutions afin de participer activement aux efforts de la paix.
Dans ces studios, nous sommes aussi avec Nathan Muskabo, qui est chargé des programmes et partenariats, mais aussi Hélène Okako, qui est secrétaire générale adjointe chargée d'administration. On ne s'est pas salué au début. Nathan, bonjour.
Bonjour, monsieur Grasse.
Hélène Okako, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans l'émission des jeunes.
Merci.
Merci.
Alors, je me tourne vers vous, Nathan. Depuis l'organisation du sommet diplomatique jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 mois. Quel a été l'impact que vous avez vous-même constaté sur les terrains ou dans vos activités après ces sommets-là diplomatiques jusqu'à aujourd'hui?
Merci beaucoup pour cette question. Très pratique même. Alors, depuis que nous avons organisé ces sommets jusqu'à ces jours, il y a quand même des résultats. Mmh. C'est que les jeunes déjà qui ont été présents lors de ces sommets ont été sensibilisés et ont pris cette problématique de la paix à cœur. Donc, il y a certains jeunes qui sont venus, bon, juste parce que connaît telle ou telle personne qui est dans l'organisation, mais en venant, ils s'est rendu compte que non, la question de paix le concerne aussi et il peut être acteur de la paix, non seulement, pas directement, mais comme l'a dit Évariste Kimba, en refusant par exemple les discours de haine, et aussi depuis ces sommets, hormis les personnes qui ont participé, même les personnes qui n'ont pas participé à ces sommets ont été sensibilisées après les sommets et ont compris l'importance de l'implication de jeunes dans le processus de paix parce qu'ils sont à la fois victimes et acteurs pour les questions de paix, en ce qui concerne les questions de paix.
Est-ce que vous avez quand même aussi les initiatives de sensibilisation communautaire des jeunes par rapport au processus de paix en RDC?
Oui, je pense que c'est une question très importante parce que c'est d'abord à la base où tout commence, vous voyez, parce que quand nous ne touchons pas la base, nous allons au sommet, ça crée une sorte de fosse. Alors, il est important de toucher d'abord la communauté. Mmh. Et à partir de la communauté, ça monte de plus en plus. Et on sent que toute la population aura, en fait, cette culture de la paix.
Puisque vous êtes chargé des programmes et partenariats au sein de la ligne de l'émergence, quelles sont aujourd'hui les organisations ou les partenaires qui vous accompagnent dans cette démarche de paix?
Actuellement, nous avons les partenaires les plus importants que je peux citer, qui nous a souvent accompagnés. C'est d'abord la MONUSCO. Pour le sommet diplomatique, c'était d'abord la section genre et la section jeunesse a suivi. Et actuellement, nous sommes en collaboration avec la section politique pour continuer à travailler dans ce processus-là.
On va revenir à Évariste Kimba rapidement avant de prendre Hélène au Kako. Évariste Kimba, je sais que vous allez présenter publiquement ou officiellement ces rapports ou ce que vous appelez notes de plaidoyer, mais les auditeurs qui nous suivent, il y a tous ces jeunes très nombreux à travers le pays et même en international qui n'auront pas l'occasion de participer à la cérémonie officielle de la présentation de cette note. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? C'est quoi l'essentiel, le message principal que vous voulez transmettre à toutes ces organisations ou alors au gouvernement?
Merci infiniment, messieurs les journalistes, pour cette question très pertinente qui fonde même la substance de notre démarche, de notre plaidoyer. En effet, comme je le disais tantôt, ce plaidoyer est une initiative des jeunes. D'où nous plaidons sur des axes. Le premier axe, c'est pour contribuer aux efforts actuels de la paix. Le deuxième axe, c'est pour le relèvement post-conflit. Et il y a pas mal de propositions. Je peux citer quelques-unes. J'avais déjà cité notre plaidoyer sur la mise en place des mécanismes nationaux de vulgarisation des accords en quatre langues nationales. Nous avons également plaidé en faveur de l'armée congolaise afin d'améliorer leur vie sociale, dont notamment avec la construction des hôpitaux modernes, type Kanchachi, dans les différentes zones de la République démocratique du Congo. Nous avons remarqué que le militaire congolais quitte les provinces respectives pour venir se soigner ici à Kinshasa. Et en cas d'urgence, en cas de nécessité, beaucoup de militaires peuvent perdre même la vie en route, voire même leur famille. C'est ainsi pour mettre nos militaires à l'aise. Nous avons pensé à ce que si l'État congolais mettait en place des hôpitaux modernes, type camp colonel Tchatchi, donc nous avons au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. À l'est, nous avons les camps, l'hôpital colonel Tchatchi. Aussi, donc, nous avons les Katanga, si nous mettons un hôpital moderne, ainsi que d'autres provinces qui sont de ce côté. Nous avons au nord, si nous mettons également un hôpital moderne. Déjà à l'est, nous avons l'hôpital de référence militaire de Goma. Et vous allez voir que les militaires ne quitteront plus leurs lieux respectifs, voire même leurs dépendants, pour venir à Kinshasa, afin de prendre les soins. Et du coup, sur le plan sanitaire, ça sera une avancée significative. Nonobstant cela, nous avons également plaidé sur la mise en place d'un secrétariat technique de la résolution 2773 des Nations Unies. Ce secrétariat technique, ça sera un secrétariat citoyen. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que la question de la paix n'est pas seulement politique, elle est également citoyenne. Dans toutes les provinces qui sont affectées par cette guerre, cette population devait être entendue de manière directe. Et donc, ce secrétariat technique permettra à ce que la population victime puisse prendre le temps ou encore le lieu de s'exprimer afin d'être entendue et compris, voire même orienter des actions humanitaires. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, nous sommes à Goma, la ville qui est prise par les rebelles du M23 et ce qui est l'armée rwandaise. Nous avons les jeunes, nous avons les femmes, nous avons les vieillards. Ils ont besoin d'exprimer leur nécessité. Et comment ils peuvent le faire? Si au moins ce secrétariat technique est implanté, ça permettra à ce que nous puissions leur attendre et que les organisations internationales et le gouvernement congolais puissent orienter leurs actions. Donc, nonobstant ces trois points, nous avons tant d'autres points que nous allons les présenter publiquement. Mais je crois qu'à travers ces points, nos auditeurs peuvent comprendre l'essentiel de notre
plaidoyer. Exactement. Donc, tout se résume par les mots paix. Alors, Hélène, je suis maintenant à vous. La toute première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi votre motivation en tant que femme d'être impliquée dans les efforts de paix, dans les processus de paix?
D'abord, ma motivation, elle est, je dirais, plus particulière parce que la femme subit, je dirais, des atrocités un peu plus particulières que l'homme dans le sens où ils se font tous agresser, oui, par l'ennemi. Mais la femme, la personne de la femme subit plus des douleurs intimes comme, je dirais, je parlerai des viols, ce qui fait très mal. Nous voyons des petites filles être violées et j'ai eu à connaître une femme personnellement comme ça qui s'est elle-même fait violer et sa fille également. Et cette réalité m'a brisée et touchée. Je me dis qu'on se doit d'apporter une solution pour que cette situation prenne fin une bonne fois pour toutes. Ça fait plus ou moins 30 ans que les femmes de ces côtés-là du pays souffrent. J'ai personnellement l'impression qu'on ne nous fait pas parvenir assez d'informations qui nous permettent de partager la douleur que ressentent ces autres femmes. Parce que, vous voyez, d'un côté, nous sommes un seul pays, mais il y a celles qui souffrent vraiment, ce qui motive en tout cas de vouloir travailler avec ceux qui ont une idée, une pensée, qui sont de voir si l'État peut soutenir dans le sens où qu'il y ait une paix durable.
Et comment, personnellement, vous évaluez cette participation de la femme dans les efforts de la paix?
Je crois que si je dois parler de l'évaluation sur l'échelle de 1 à 100, je pense que c'est 50%. Parce que l'homme a effectivement, ils ont deux pensées, ils ont une idée. Mais en tant que femme, il y a aussi cette touche-là, un peu plus particulière à ajouter. Ce qui est en tout cas très très important aussi.
Exactement, puisque vous dites, et plusieurs rapports d'ailleurs les démontrent, que ce sont les femmes qui sont plus victimes des atrocités, ce qui veut dire aussi que les femmes doivent être aussi plus impliquées dans les démarches de la paix. Alors, vous, au sein de votre structure, quelles sont les actions, par exemple, que vous menez pour justement faire porter la voix de la femme ou de la jeune fille pour que ces problèmes soient entendus?
Alors, déjà, par rapport à mon poste, je suis secrétaire dans l'administration, ce qui fait que je ne suis pas trop sur le terrain, mais cela arrive que je puisse plus motiver d'autres femmes de mon entourage, de ma fac et de où je fréquente. Je dirais aussi que nous apportons plus de notre contribution intellectuelle, plus dans le sens où ils peuvent entreprendre une idée, mais nous apportons une touche particulière en tant que femme, un raisonnement un peu plus différent.
Du sommet diplomatique que vous avez organisé en novembre 2025 jusqu'à ces plaidoyers, quel est le point ou qu'est-ce qui est dit à propos de la jeune fille ou de la femme?
Par rapport au plaidoyer,
est-ce qu'il y a un point spécifique? Peut-être le président pourra vous compléter. Est-ce qu'il y a un point spécifique qui concerne la situation des femmes? C'est vrai, lorsque vous plaidez pour la paix de manière générale, ça va effectivement aussi toucher la femme, parce que c'est, quand il y a la paix, la femme sera à l'aise. Mais est-ce qu'il y a un point qui concerne particulièrement la situation ou l'encadrement de la femme ou de la jeune fille? Parce que lorsque vous parlez notamment du relèvement post-conflit, c'est-à-dire même les femmes seront concernées. Oui. Et comment comptez-vous justement accompagner cette femme-là, en d'autres termes? C'est ça la question. Comment comptez-vous accompagner la jeune fille ou la jeune femme à se relever après les conflits?
Ok, sur cette question, je crois que, comme vous l'avez dit, le président va enrichir plus ce que je dirais. Mais je dirais qu'en parlant de la jeunesse, dans notre plaidoyer, nous avons vu les deux genres. Parce que je veux plus me baser sur notre troisième proposition qui est de construire des parcs. Je me dis que cela contribue aussi pour la jeune femme et vise plus d'ailleurs la jeune femme parce que c'est plus elle qui est dans ces domaines-là d'agriculture, tout ça là. Et voilà, je pense qu'en visant la jeunesse, on a d'une certaine manière aussi visé la jeune femme. Peut-être pas plus particulièrement, mais de manière générale, elle est visée.
Elle est visée, très bien. Alors, président Evariste Kimba, vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce que Hélène vient de dire?
Exactement, monsieur le journaliste.
Allez-y.
Nous avons pensé particulièrement à la jeune femme, en des axes. Le premier, c'est sur le relèvement psychosocial. Nous avons proposé la mise en place nationale d'un cadre de prise en charge psychosociale afin de penser aux femmes victimes de viol. Parce que vous allez voir aujourd'hui que c'est la réparation médicale qui suffit. Quand nous parlons du relèvement post-conflit, ce cadre ne va pas seulement se limiter aux provinces touchées. Nous plaidons à ce que ça puisse être dans l'ensemble des territoires pour permettre à ce que ces jeunes filles qui est violée, qui a connu des atrocités, puisse être soignée, non seulement médicalement, mais aussi psychologiquement. Nonobstant cela, nous avons également pensé sur le plan économique, encore sur le plan entrepreneurial, à quelques activités qui vont au bénéfice de la jeune femme ainsi que des femmes, notamment celui des parcs agro-industriels que Mme Hélène a cité, mais également nous avons pensé aux villages agricoles, notamment dans les territoires des cabarets, aussi qui des Fizi, où l'État congolais, en collaboration avec les organisations internationales comme la MONUSCO et plutôt comme les Nations Unies, à travers ces agences, peuvent mettre en place quelques terres agricoles afin de permettre aux jeunes femmes entrepreneurs dans ce sens puissent évoluer. Parce que vous allez remarquer que nous avons beaucoup de déplacés de guerre, nous avons beaucoup de femmes victimes qui se sont réfugiées, et voire même ceux qui sont restés. Et ce sera un moyen dans lequel ces jeunes femmes peuvent se relever sur le plan entrepreneurial. À l'air disponibilisant les terres, les agrochimiques, ainsi que quelques formations que nous avons proposées, des mises à niveau entrepreneurial, afin de leur permettre de se relever aussi sur le plan économique. Donc voici les deux manières qu'on a pensé aux femmes.
Très bien. Alors, Hélène, au sein de votre structure, est-ce que vous avez des programmes spécifiques qui concernent la femme? Il y a quand même des activités spécifiques, vous vous dites, en tout cas, ça, c'est uniquement pour les jeunes femmes. En tout cas, ceux qui m'y balient, bah, au côté. Donc, ça, c'est uniquement pour les jeunes femmes. Est-ce qu'il y a ce genre de programmes?
Bon, dire que ce qui m'y belle, bah, il va cocoter. Ça, on ne l'a jamais précisé.
En fait, vous ne l'avez jamais précisé, mais dans vos cœurs, vous dites ça. En tout cas, Baeka Kametubingi Bangoti.
Oui, on a eu une formation de cosmétique. On l'a tenue dans une école vers Brikin, comme ça. Et voilà, c'était vraiment, on a visé les femmes. On a visé les femmes et il y avait plusieurs femmes qui sont venues et ont suivi des formations. Nous avons remis deux brevets. Et puis voilà, hormis ça, nous avons encore d'autres activités. Je me souviens, quand j'étais encore à l'école, l'équipe est venue dans l'école où j'étais pour former les jeunes femmes sur la question du changement climatique, des histoires comme ça. C'était à l'occasion du 8 mars. Et puis voilà, il y a des activités comme ça qui vise en tout cas la personne de la femme, mais on n'interdit jamais les hommes.
Bon, vous n'interdisez pas publiquement ou bien ouvertement?
Non.
Mais la samité manabino bo piki sakamibale, à un moment donné, au état binoté président, qui est variste en tout cas, qui n'est pas musica, n'attend tout mon abinoté. Sinon, c'est bien, ce qui est intéressant ici, Hélène, c'est que quand on parle de la paix, beaucoup de gens ou l'opinion pensent que c'est la cessation de la guerre, hein, tout de suite, c'est vrai d'une certaine manière. Mais lorsqu'il y a d'autres activités qui accompagnent cette démarche-là, ce processus-là, vous avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat, vous venez de parler de la lutte contre les changements climatiques, ça devient quand même très intéressant et ça montre combien le champ paix est trop vaste. Et qu'il y a toujours des choses à faire en faveur, notamment de la jeunesse et de la jeune fille. Alors, quelles sont souvent les impressions ou les réactions de ces jeunes femmes, de ces filles que vous rencontrez dans le cadre de vos activités, lorsque vous organisez une formation, par exemple?
D'abord, premièrement, je vais commencer par mon exemple. J'ai eu plus envie de travailler avec l'équipe, l'ASBEL, parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient et j'ai vu l'importance qu'ils accordaient à la jeune femme. Et voilà, donc pour dire que j'étais pas là, en tout cas, mais ça, leur manière de faire, leur manière de fonctionner, j'ai vu qu'ils ne mettaient pas à côté les potentialités qu'incarnait la femme et que d'ailleurs, ils le mettaient en valeur. Et donc, pour ces autres femmes également, avec celles avec qui j'ai eu à échanger, elles se sont senties capables de quelque chose. Pour une femme qui était à la maison sans connaissance sur le climat, des histoires comme ça, mais qu'on lui apporte une réflexion sur base de ce qu'elle ignorait avant, vous voyez et vous constaterez avec moi que c'est quand même important et ça peut faire objet d'une reconnaissance infinie pour en tout cas des femmes qui veulent voir un changement dans leur pays.
Et donc par là, on peut dire que Hélène est d'abord témoin de l'impact des activités de l'ASBL avant de devenir elle-même membre active au sein de l'association.
C'est tout ça.
Très bien. Alors, je vais chez Nathan. Aujourd'hui, vous parlez depuis Kinshasa. Vos activités sont focalisées à Kinshasa, même si ça concerne aussi, en fait, ça concerne en grande partie la région qui est touchée, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes-là qui ne sont pas du Nord Kivu, du Sud Kivu ou encore de l'Ituri, qui sont dans les zones qui ne sont pas vraiment touchées? Qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport à ce qu'ils doivent faire pour aussi contribuer à ramener la paix dans la partie est du pays?
Merci beaucoup. Alors, ce que je peux dire d'abord, c'est que la question de paix est une affaire qui ne concerne pas une zone du pays, mais ça concerne tous les Congolais. Nous devons avoir cet esprit de cohésion nationale, de l'unité. Parce que récemment, je pense que c'était une activité ici à la MONUSCO, où il y avait une dame qui disait que, non, depuis qu'elle est à Kinshasa, elle sent qu'il y a une très grande différence entre les jeunes qui sont à l'Est et ceux qui sont ici. Elle dit, ici, c'est la fête. Ici, on a l'impression que le pays n'est pas en guerre. On voit tout le monde danser, boire et tout ça, alors que nous sommes, nous, là-bas, à l'Est, c'est vraiment chaud. Alors, ce que je dirais, c'est que tu sois jeune ou pas, du fait que tu es Congolais, tu dois savoir que la question de paix te concerne. Ça pourrait arriver n'importe où, mais c'est arrivé à eux. Que chaque Congolais sache que la paix nous concerne tous, parce que c'est notre territoire qui est violé. C'est notre pays, ce sont nos frères qui sont en train de mourir. Comme l'a dit Hélène, qu'il y a des femmes qui sont en train d'être violées. Cette femme peut être ta sœur, cette femme peut être ta mère. Mais si tu mets ça de côté, tu te dis, bon, moi je fais ma fête, ça ne me concerne pas. C'est une erreur très grave. Alors, nous devrons être conscients d'abord, comme je l'ai dit, conscients du fait que notre territoire est violé. Et deuxièmement, nous devons avoir une attitude des personnes qui sont en guerre. C'est-à-dire, pas des discours de haine parce que ça ne fait qu'amplifier les choses. L'ennemi cherche à ce que nous soyons divisés et aussi lutter contre la désinformation. Aujourd'hui, on parle du poison rwandais sur les médias. Il y a des vidéos montées de toutes pièces, de faux comptes où on nous balance des informations visant à nous déstabiliser psychologiquement, moralement, des fausses informations. Et on voit beaucoup de jeunes en train de relayer ces informations, en train de les partager n'importe comment. Alors que, en tant qu'un pays en guerre, nous devons avoir cette attitude, nous devons être vigilants. Tu vois quelque chose, tu te dis, ça, je ne peux pas partager ça, je bloque. Parce que si toi, tu ne les partages pas, la personne qui allait la voir aussi ne la verra plus. Donc, ce sont ces genres d'attitudes que nous conseillons et aussi, surtout, éviter les divisions au sein de nos tribus, de nos ethnies. C'est tout ce que l'ennemi est en train de chercher parce que plus nous sommes divisés, plus nous sommes fragilisés. Donc, c'est vraiment ça ce que nous sommes censés faire en tant que pays agressé.
Alors, selon Nathan Muscabo, la paix concerne tout le monde, que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. La paix te concerne et tu es censé aussi apporter ce que tu peux pour ramener la paix, et d'où l'appel à la cohésion nationale.
Effectivement. Kukati, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous vous rappelons que vous écoutez le magazine 100% Jeunes sur votre radio, Radio Capi, la fréquence de la paix. Et aujourd'hui, dans ces studios, nous recevons l'équipe de l'ASBL, ligne de l'émergence, qui nous parle bien évidemment du processus de paix à travers sa démarche de plaidoyer auprès des organisations qui s'impliquent dans cette question, notamment la MONUSCO, l'Union africaine, ainsi que les gouvernements congolais, sans oublier la CIRGL.
À Kinshasa, sur 103.5 FM.
Évariste Kimba, nous revenons sur les résolutions contenues dans votre note de plaidoyer. Qu'est-ce que vous attendez de chaque organisation? C'est-à-dire la MONUSCO, vous, nous attendons de vous ceci. Le gouvernement, vous devez faire ceci.
Pour le gouvernement congolais, c'est que nous leur demandons, dans le cadre de notre plaidoyer, c'est plus d'engagement. Plus d'engagement dans la mesure où, une fois que nous avons la paix, on doit la consolider. On ne peut pas consolider cette paix si on ne pense pas à notre armée. Et du coup, nous avons proposé des propositions relatives aux infrastructures sanitaires. Nous avons également proposé quelques propositions relatives aux enfants militaires. Et du coup, si aujourd'hui le gouvernement congolais s'investit plus dans l'armée, vous allez voir que nos militaires seront motivés et ils vont également donner le courage et l'espoir à d'autres jeunes de rejoindre l'armée. Et nous avons proposé à ce que les enfants militaires, on puisse penser à leur scolarité, mais également à leur vie universitaire. Un enfant militaire ne peut pas payer les frais académiques comme tout autre enfant. Parce que l'armée, c'est un métier de prestige, c'est un métier d'honneur. Il donne tout pour la République. Si aujourd'hui le gouvernement congolais pensait à réduire quelques pourcentages en faveur des enfants militaires, je crois que même les militants au front seront engagés pour défendre la République. Et nous, les jeunes qui viendront, diront voilà, une fois que je suis militaire, au moins sur les plans sanitaires, je n'aurai pas de problème. Mais également mes enfants auront quelques avantages sur le plan scolaire, voire même sur le plan académique. Aux Nations Unies, ce que nous leur demandons, c'est qu'ils puissent également continuer à prêter une attention particulière. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la crise sanitaire qui est en RDC, elle est parmi les grandes crises mondiales qu'elle monte à connaître, notamment avec les réfugiés et les déplacés de guerre. Et du coup, compte tenu des propositions que nous avons faites pour le relèvement post-conflit, nous demandons à ce que les Nations Unies puissent vraiment amplifier leurs actions humanitaires, que ce soit d'une manière concrète, notamment avec les parcs agro-industriels que nous avons proposés, les villages agricoles et tant d'autres. Pour l'Union africaine, ce que nous avons proposé, c'est que l'Union africaine doit être cette institution qui soutient ces pays agressés. Nous voulons à ce que l'Union africaine puisse vraiment s'engager vivement, soutenir la RDC publiquement, mais également prendre des résolutions, des actions en faveur des pays en RDC. Nous voulons à ce que l'Union africaine puisse agir pleinement, prendre des résolutions condamnant l'agression rwandaise, prendre des actions en faveur des pays en RDC. Et à la CIRGL, ce que nous avons proposé est qu'elle puisse ouvrir encore son action en matière d'engagement des jeunes pour la paix, réunir les 12 pays qui sont membres de la CIRGL afin de permettre à ce que la paix, comme elle était avant dans la région, qu'elle puisse reprendre, où les jeunes seront formés en matière de paix, où les jeunes vont faire cet échange de culture. C'est tout ça qu'on a plaidé. Parce que la culture africaine, elle est la même. Justement, que les pays qui sont différents. Si aujourd'hui, les 12 pays qui forment la CIREGEL partageaient la culture des pays, on repensait à la culture africaine, on croit que l'unité peut régner au sein de la jeunesse et on va prévenir le conflit futur. Cela veut dire que nous voulons à ce que notre génération, qu'on ne puisse pas gérer comme nos pères. Nos pères ont géré avec l'agression, avec la guerre. Nous voulons à ce que la nouvelle génération africaine, des pays membres de la CIREGEL, qu'ils puissent avoir une même culture des pays, qu'ils puissent avoir un même angle de vue pour que la paix puisse régner au niveau de la région. Voici quelques propositions qu'on a fait dans l'ensemble de différentes institutions qu'on s'adresse. Merci.
Hélène, vous êtes optimiste quant aux réactions positives, quant à la suite réservée à votre démarche, à votre plaidoyer par toutes ces parties, par toutes ces organisations?
Oui, je reste optimiste parce que nous avons eu à frapper à des portes. Peut-être que ce n'est pas le moment pour préciser quelles portes. Mais vu le change et vu la considération que nous avons remarquée, nous pensons que notre démarche sera soutenue et portée au niveau national et international et que cela produira de fruits que nous envisageons.
Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces portes à travers les antennes des Radio Capi en ce qui concerne votre démarche et surtout, j'insiste, surtout sur la situation de la femme?
Sur la situation de la femme, je commencerai par là. Déjà, il y a une dame avec qui nous travaillons. D'ailleurs, nous l'appelons notre maman. C'est une très bonne femme et nous la remercions. Elle comprendra si elle entend parler de l'aspect de ligne de l'émergence. Nous pensons que ça va beaucoup aider. Ça va aider la jeune femme à mieux avoir confiance en elle, malgré parce qu'il y a de celles qui perdent leur confiance en soi parce qu'elle a été violée et qu'on sort. Mais nous pensons que si ces portes-là répondent favorablement à notre demande, ces femmes-là qui sont aujourd'hui humiliées retrouveront leur honneur et pourront peut-être apporter quelque chose de très bon pour le futur de ces beaux pays.
Est-ce que par hasard, vous êtes déjà arrivé de recevoir dans votre ASBL, dans votre association, de recevoir par exemple les victimes?
Bon, je dirais oui. D'une manière générale, parce que tantôt j'ai parlé d'une femme qui a été violée, elle et sa fille, ouais. Et sont venues ici parce que là c'était compliqué. Et
donc les témoignages qu'elle donnait, c'était dans le cadre de l'association, ce n'était pas dans le cadre privé?
Bon, je dirais, je l'ai connue dans un cadre privé, mais j'ai demandé son témoignage en tant que secrétaire parce qu'on avait plus besoin de personnes qui ont vécu comme ça, mais seulement c'est une femme qui n'a pas voulu voir le président personnellement pour garder sa dignité parce qu'elle estime qu'ici personne ne la connaît et qu'elle peut facilement reprendre sa vie. Mais c'est une personne que j'ai connue personnellement, mais j'ai demandé son témoignage dans le cadre de la SBL.
Alors, les autres intervenants vont vous compléter dans une situation pareille. Qu'est-ce que vous faites pour tout accompagner cette victime-là?
Alors, le président a parlé aussi de la psychologie. La première des choses à faire, la première des choses que j'ai faites, c'est d'abord de lui dire que cela n'a, de manière générale, rien enlever dans sa vie et dans sa réussite, parce qu'elle peut encore réussir. C'est être tuée qui est encore plus mal, puisqu'elle a encore la vie. J'ai fait mieux de l'encadrer dans ce sens-là. Mais aussi, je dirais que la manière la plus bonne d'aider ces personnes, c'est aussi de les accompagner dans un sens beaucoup plus financier. Donc, dans le sens où elles manquent de moyens pour peut-être scolariser sa fille ou souhaite s'en sortir, et c'est dans ce
là,
sens.
Vous aidez dans ce sens. Alors, avant Evariste Kimba, Nathan, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça?
Oui, je vais compléter Madame Hélène. C'est que déjà, ce plaidoyer n'a pas seulement été écrit par les jeunes de Kinshasa. Toutes les résolutions ne viennent pas
des jeunes de Kinshasa.
Nous avons travaillé avec ceux de l'Est aussi. Alors, des personnes qui vivent en live ces atrocités ou qui ont vécu ça en live. Alors, c'est vrai, il y a des femmes qui n'ont, comme l'Asie, qui préfèrent garder leur identité. Elles peuvent parler à deux, trois personnes et on échange. mais elle ne préfère pas passer devant, par exemple, lors du sommet pour en parler devant tout le monde. Et la première des choses qu'on lui offre, c'est d'abord ces cadres-là, des personnes qui comprennent sa situation. Ça permet de, qu'elle se sente en sécurité. Ça la remonte un peu psychologiquement. Elle sent que, ah, voilà, il y a des gens qui comprennent qu'une femme qui a vécu ces atrocités a encore droit d'être dans la société. Vous voyez, ça, c'est d'abord la première des choses, parce que tant que psychologiquement, elle ne sera pas assise, je crois que rien ne va marcher, parce que tout part de là.
Et Evariste ?
Dans notre sommet diplomatique de Kinshasa, nous avons également reçu quelques victimes, nos compatriotes de l'Est, qui se sont réfugiés à Kinshasa, donc qui se sont déplacés à Kinshasa. Et on prépare également à ces sommets diplomatiques. Et nous avons reçu de leur part quelques témoignages. C'est ici ces témoignages d'ailleurs que nous avons fait sortir beaucoup de résolutions, notamment l'une et aussi concernant ce gouvernement congolais auprès des ministres de l'économie, et c'est lui de mettre en place un service national de contrôler à ce que la loi sur l'interdiction des exercices des petits commerces aux étrangers puisse être respectée. Parce qu'ils ont remarqué qu'à l'est du pays, il y a beaucoup de pays voisins qui viennent avec leurs produits en mettant un prix inférieur, et cela valorise plus leur commerce étranger qu'au commerce de compatriotes. Toi, sachant que l'État congolais, en travers plusieurs lois, a interdit l'exercice des petits commerces aux étrangers, mais malheureusement, ça souffre de sous-application par manque d'un service de contrôle. Et au gouvernement congolais, nous avons également proposé cela. Et cette proposition ne vient pas de nous, mais ça vient plus des personnes qui ont participé à ces sommets victimes de l'Est du pays. Et nous travaillons également avec beaucoup de provinces. Nous avons des points focales au Maniema, au Congo central, au Katanga, et voire même à l'extérieur du pays. Et surtout que ce plaidoyer, on ne le fait pas seul, l'île de l'émergence. Vous avez également quelques organisations, voire même institutionnelles, telles que le Parlement des jeunes. C'est pour ça que quand vous voyez nous parler du plaidoyer commun de la jeunesse, c'est que nous avons quand même pu sensibiliser d'autres organisations, voire même une institution de jeunes, qui est le Parlement des jeunes, qui nous accompagne dans le cadre de ces plaidoyers. Donc, c'est un peu ça, monsieur le journaliste.
Nathan, puisque vous êtes chargé des programmes et des partenariats, quelles sont les actions, les activités qui vont suivre au sein de l'association?
Effectivement, nous allons, d'abord, la première des choses, c'est organiser cette cérémonie. Uh-huh. Cérémonie où nous allons officiellement remettre cette note de plaidoyer aux différentes institutions cibles, donc notamment l'Union africaine, tout ça.
Ça sera quand déjà?
Nous les projetons au début du mois de juin.
Déjà.
Voilà. Alors, ensuite, nous comptons maintenant mener des campagnes de sensibilisation pour faire suivre, en fait, où nous allons sensibiliser, mener des activités qui seront collées aux différentes propositions. Par exemple, sur l'importance de la création de ces parcs, organiser par exemple toute une conférence où on parle vraiment de l'importance de créer vraiment ces parcs, parce que ça va permettre à ce que la vie soit relancée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacés, il y a des gens qui ont fui leur maison, qui ont laissé leur champ, tout ça. Mais après, quand la paix sera rétablie, quand les rebelles seront rétractés, la vie, qu'est-ce qu'elle devient? Vous voyez, alors c'est important de relancer les activités dans ces zones-là. Alors nous allons mener des actions maintenant allant dans ces sens où nous parlons concrètement de ce que nous avons proposé.
Hélène, quel message vous avez à adresser à tous ceux qui vous suivent sur Radio Capi, particulièrement les jeunes femmes, les jeunes filles, en mettant l'accent justement sur cette jeune fille qui se trouve dans la partie est du pays, qui est concernée directement, même si la question concerne tout le monde?
Alors, je commencerai d'abord par les jeunes filles de Kinshasa. Mmh. Je tiens vraiment à ce qu'elles sachent que nous avons une guerre. Mmh. Et que cela ne doit pas sembler ne pas nous intéresser. Parce que ce qui fait plus mal, je crois, à ces femmes-là, c'est les silences que nous autres entreprenons face à leur douleur. Nous faisons comme si nous ne faisons pas partie de ces pays, comme si elles étaient dans un monde à part, et c'est peut-être ce qui leur font plus de mal. Nous devons plus nous engager, nous, jeunes filles de Kinshasa, plus nous engager dans cette lutte. Ça pourrait peut-être leur soulager d'une certaine manière. Et à ceux qui subissent directement ces atrocités, je tiens à leur dire que la plus douloureuse nouvelle serait la mort. Mais tant qu'elles peuvent rester en vie, qu'elles tiennent bon, nous autres, nous faisons de notre mieux pour leur apporter notre solution d'une manière possible, d'une manière dont nous sommes capables.
Et Hélène n'abandonnera pas cette lutte?
Hélène en particulier, non.
Sûre?
Certaine.
Très bien. Alors, Nathan, avant de finir avec le président Evariste Kimba, quel message à tous les jeunes de la RDC?
Avant d'adresser un message à tous les jeunes, j'aimerais m'adresser à nos différents gouvernants en disant que cette action que nous sommes en train de mener, c'est vrai que c'est initié par les jeunes, mais ça a besoin de l'accompagnement de nos autorités. Alors, s'ils nous écoutent, je pense que ce serait un acte patriotique d'accompagner des jeunes qui se réveillent, des jeunes qui s'engagent autant pour la nation, pour l'unité et pour la consolidation de la paix. Et pour les jeunes, j'aimerais dire que, comme je l'avais dit au début, la question de paix n'est pas l'affaire de M. Patrick Muyaya seulement. La question de paix n'est pas seulement l'affaire de Mme Kayikwamba, mais la question de paix nous concerne tous. Peu importe que nous soyons autorité ou pas, tant que nous sommes Congolais, cette question nous concerne. Évitons les discours de haine, oublions un peu parfois nos couleurs tribales, restons dans l'optique où nous sommes Congolais et nous sommes un seul peuple.
Et Patrice Kimba, un petit mot de la fin.
Premièrement, nous adressons au gouvernement congolais ainsi qu'à l'ensemble des acteurs en conflit pour leur dire que aujourd'hui notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de traverser une étape très difficile de son histoire. Où nos mères sont violées, nos jeunes subissent des atrocités énormes, les meurtres et tant d'autres. Et c'est que, au-delà de tout, nous sommes Congolais. Et qu'ils essaient un peu d'oublier tout ce qui leur a motivés d'arriver à ce niveau et de mettre la patrie avant. Pour dire que l'arme ne résoudra aucun problème. Nous sommes Congolais, retournons sur la table de discussion afin que nous puissions penser à notre patrie. À la population, voire à la jeunesse congolaise, ce que nous pouvons leur dire, c'est que aujourd'hui, notre pays a besoin de paix et c'est un impératif. Et pour que cela puisse arriver, nous tous, on doit être des acteurs. Des acteurs, comme on le disait tantôt, en évitant les discours de haine, parce qu'aujourd'hui, si le Congo n'existe plus, on ne sera pas Congolais. Donc nous sommes Congolais parce que le Congo existe. Le maintien du Congo doit être une affaire de tous, pour que la paix ne soit pas seulement pour cette génération, mais également pour l'avenir de notre République, j'ai dit.
Évariste Kimba, je rappelle que vous êtes président de la ligne de l'émergence ASPL. Merci d'être passé dans notre mission des jeunes sur Radio Okapi.
Merci, monsieur le journaliste.
Nathan Mouskabo, chargé des programmes et partenariats, merci d'être venu à Radio Okapi.
Merci beaucoup, monsieur le Passe.
Et enfin, Hélène Okako, secrétaire générale adjointe, chargée d'administration. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission qui est la vôtre d'ailleurs.
Merci.
Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois.
Nous espérons aussi.
C'est la fin de ce numéro du magazine 100% Jeunes consacré au plaidoyer de la jeunesse pour la paix et le relèvement post-conflit en République démocratique du Congo. Merci à nos invités et à vous tous de nous avoir suivis. La mise en onde de cette émission a été assurée par Pierre Diassinois et Alain Goy. Présentation et coordination grâce à Mzati Masanzi sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Jeunes sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Au revoir.